Grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Vous le savez peut-être, l'instruction est désormais obligatoire dès l'âge de 3 ans. Tous les enfants entre 3 et 6 ans doivent être inscrits en maternelle, sauf cas exceptionnel. L'école maternelle, cette période essentielle pour un enfant car c'est sa première immersion dans un univers étranger au cercle familial. Mais comment bien préparer et accompagner les tout petits à la maternelle? Comment favoriser leur épanouissement? Comment améliorer leurs conditions d'accueil? Les aider à mieux maîtriser la langue, comment nouer une relation affective qui impacte positivement leur réussite scolaire? Doit-on forcément opposer la pédagogie du jeu et la pédagogie des pré-apprentissages? Comment aménager de façon optimale les espaces collectifs? Comment sont formés les professionnels de l'école maternelle? Pour répondre à toutes ces questions, un invité exceptionnel, le neuropsychiatre et éthologue Boris Cyrulnik, qui a présidé les Assises de la maternelle en 2018. Avec nous également Agnès Pommier de Santy, professeure des écoles et doctorante en sciences de l'éducation, et Anne Lucas, infirmière puéricultrice. Toutes vos questions sur l'école maternelle au 01 45 24 7000, sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Racontez-nous également vos souvenirs de maternelle. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Nous aurons droit tout à l'heure à votre ordonnance philosophique et vous convoquez, je crois, cette semaine Hannah Arendt.
Oui, parce que Hannah Arendt, dans son texte sur la crise de l'éducation, se demande si il est possible pour les parents de réussir à éduquer convenablement leurs enfants. On y revient tout à l'heure.
À tout à l'heure, Thibaut de Saint-Maurice. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Bonjour Boris Cyrulnik.
Bonjour.
Je suis heureux de vous accueillir. Vous êtes neuropsychiatre, spécialiste des théories de l'attachement et de la résilience, auteur de nombreux ouvrages de référence comme Les nourritures affectives, et vous publiez sous votre direction chez Odile Jacob Préparer les enfants à la maternelle. Alors c'est le fruit des Assises de la maternelle que vous aviez présidées en 2018. Pourquoi la maternelle est-elle si importante à vos yeux? Vous qui n'y êtes pas allé en raison de votre histoire tragique, vous avez échappé à la déportation dans un camp d'extermination, pourquoi cet intérêt pour la maternelle?
Pour deux raisons. La première, c'est que ça participe à l'épanouissement des enfants. Et la deuxième, c'est que c'est la meilleure lutte contre les inégalités sociales, puisque maintenant le nouvel organisateur de la société, c'est l'école. C'est la nouvelle aristocratie, c'est le diplôme. Ceux qui sont largués de l'école, ceux qui ont du mal à se socialiser. Donc c'est le plus sûr moyen de lutter contre les inégalités sociales, c'est de faire une bonne école maternelle où les enfants pourront aussi s'épanouir au mieux possible.
Alors désormais l'école est obligatoire dès l'âge de 3 ans, au lieu de 6 ans auparavant. 97% des enfants entre 3 et 5 ans étaient tout de même scolarisés à l'école maternelle.
Absolument, oui. Mais quand Jules Ferry a fait l'école, la plupart des enfants allaient déjà à l'école, mais c'était pas obligatoire, c'était pas laïque. Alors que maintenant, les enfants étaient presque tous scolarisés. 97% étaient en effet scolarisés à 3 ans, mais les classes pauvres étaient beaucoup moins scolarisées que les classes bien éduquées qui savaient qu'il fallait envoyer leurs enfants à la maternelle. Donc l'inégalité a existé avant la loi, et cette loi, maintenant, lutte aussi contre l'inégalité sociale.
Pourquoi 3 ans et pas 2 ans?
2 ans, j'ai été opposé à l'école.
Pourquoi?
À 2 ans, parce qu'à 2 ans, un enfant ne parle pas, et il n'est pas toujours propre. Donc il est malheureux à l'école, il a encore besoin d'une base de sécurité qui est le corps de sa mère. À 3 ans, il parle, il est propre. Et s'il a été sécurisé avant la maternelle, il éprouve l'entrée en maternelle comme une aventure excitante, stressante, mais excitante. Alors que s'il a été insécurisé avant l'entrée en maternelle, pour une cause de malheur familial ou de malheur social, les deux se mélangent, cet enfant-là va rentrer à la maternelle avec un stress et il aura peur de l'école. Donc 2 ans, c'est un stress trop fort pour un enfant encore non préparé.
Boris Cyrulnik, rappelez-nous pourquoi la période entre 0 et 6 ans est si fondamentale dans la construction des enfants?
Ah, moi, je suis encore plus radical que vous. Je dis que c'est avant la fécondation et avant la parole. C'est-à-dire, c'est les 1000 premiers jours. Je suis en train de présider actuellement une commission qui a un travail passionnant et énorme. Et pourquoi ces deux chiffres ? Avant la fécondation, quand on a une jeune mère de 13-14 ans qui n'a pas de diplôme, qui est impulsive et qui prend des substances et qui va faire un enfant, avec un garçon de 14, 15, 17 ans qui n'est pas socialisé, on peut prédire que l'enfant qu'ils vont mettre au monde aura des difficultés de développement. Donc il faut que ces enfants, ces jeunes gens sont déjà aidés, il faut probablement les aider encore mieux et leur dire que c'est pas facile de mettre, dans notre culture, de mettre un enfant au monde à 13 ou 14 ans quand on prend des substances. Et pourquoi la fin des 2 ans ? C'est parce qu'on change de monde. Dès l'instant où on parle, on entre dans le monde des mots et les déterminants sont moins biologiques et beaucoup plus verbaux. C'est les récits, c'est les organisations sociales qui continuent le développement, sachant que le récit et les mots agissent sur le cerveau et participe à son développement, comme le démontre actuellement la neuroimagerie.
Alors le président de la République vient donc de vous confier la mission de penser l'accompagnement des 1000 premiers jours de l'enfant, 1000 jours fondamentaux pour sécuriser au maximum le bébé. Quels sont les principaux facteurs qui peuvent insécuriser un bébé dès sa naissance ?
Avant sa naissance, puisqu'on sait maintenant que les bébés dans l'utérus communiquent avec leur mère, on le sait depuis longtemps, à Toulon, on a été parmi les premiers à le montrer, hein. Ils communiquent avec leur mère, avec les basses fréquences de leur voix, avec le goût du liquide amniotique, et lorsque la mère est malheureuse, quelle que soit la cause de son malheur, ça peut être sa propre histoire, ça peut être son isolation, qui est un facteur d'altération cérébrale très grave, ça peut être son mari, la violence conjugale est bien plus grave que ce qu'on croyait, et c'est très souvent la précarité sociale, quelle que soit la cause du malheur de la mère, ça peut être une maladie, ça peut être un accident de la vie, lorsque la mère est stressée, elle sécrète les substances du stress, le cortisol, les catécholamines qui sont les substances vedettes. Et l'alerte maternelle, le malheur maternel est chronique, au-dessus d'un certain seuil, au-dessus d'une certaine durée, ces substances du stress passent la barrière du placenta et baignent le liquide amniotique. Or, quand la mère parle, les basses fréquences de sa voix stimulent le bébé qui déglutit 4 ou 5 litres de liquide amniotique bourré de substances toxiques pour son cerveau. Si bien que le bébé arrive au monde avec une atrophie du système limbique, qui est le socle neurologique de la mémoire et des émotions, son système limbique est altéré parce que sa mère a été rendue malheureuse par son mari, son histoire et sa culture. Donc c'est un nouveau mode de raisonnement, c'est une nouvelle vision de la condition des bébés préverbaux, et j'espère qu'on remettra un rapport qui provoquera, j'espère, des réformes utiles aux mères, donc aux bébés.
D'où l'importance fondamentale de ces 1000 premiers jours pour devenir résilient.
Alors, pour bien se développer, parce que pour employer le mot résilience, il faut qu'il y ait eu une tragédie, il faut qu'il y ait eu un arrêt du développement à cause d'un traumatisme. Alors là, on peut employer le mot résilience. Comment va-t-on tenter de reprendre le développement le mieux possible après un traumatisme ? Alors là, on emploie le mot résilience, et si la femme enceinte a été traumatisée par son mari, par son histoire, par la guerre, etc., le bébé porte une part du malheur. C'est les théories de l'épigenèse qui sont d'une précision étonnante maintenant. Et alors là, on peut employer le mot résilience, c'est-à-dire que le premier facteur de résilience, c'est d'aider la mère. Si on aide la mère, on va aider le bébé qu'elle porte. Et ensuite, après, quand elle l'aura mis au monde, il faudra entourer le bébé. Et là, on déclenche les facteurs de résilience.
Donc la réussite en maternelle se joue dans ces 1000 premiers jours. Notamment.
La réussite se joue, tant qu'on n'est pas mort, on peut jouer. Hein. C'est-à-dire. mais c'est vrai qu'il y a une période sensible, parce que notre cerveau synaptise, c'est-à-dire que les neurones vont en connexion pour faire des circuits. Et le nouveau cerveau, celui qui est en train d'arriver au monde aujourd'hui, le nouveau cerveau est sculpté par le milieu. C'est alors qu'avant, on nous disait, le cerveau dans sa boîte crânienne, tiens, mon œil, il est sculpté, il est circuité par le milieu. Parler à un bébé, c'est circuiter ce qui va plus tard faire la zone du langage. Jouer avec un bébé, c'est circuiter ce qui va faire plus tard les zones de la vision ou de l'émotion. Donc, c'est le milieu qui sculpte le cerveau. Et maintenant, on connaît les facteurs qui permettent de sculpter un cerveau qui fonctionne bien, et on connaît les facteurs qui permettent d'altérer un cerveau et de provoquer un mauvais fonctionnement cérébral, donc avant même d'entrer en maternelle.
Bonjour Anne Lucas, vous êtes infirmière puéricultrice dans un centre de PMI d'un quartier populaire dans le nord de Paris. Votre regard sur cette offre des 1000 jours?
Moi, je ne peux que cautionner et être d'accord, étant professionnelle de la toute petite enfance, et bien évidemment, tout ce qui se joue de la naissance. Alors, avant la naissance, je suis moins calée, mais en tout cas, de la naissance jusqu'à l'entrée à l'école maternelle, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. Le bébé, intrinsèquement, évidemment, de ce qu'il a reçu pendant la grossesse, mais après sa venue au monde, de la capacité des parents à être parents, de la capacité de ses parents à avoir de l'entourage et à demander de l'aide quand ils en ont besoin. Tous les parents sont plus ou moins capables de faire ça. Et puis, de la réponse de la société face à ses enfants, c'est-à-dire, ça va du congé maternité aux offres de soins de prévention qui sont offerts aux familles, aux structures d'accueil qui sont proposées, à l'âge d'entrée des structures d'accueil, puis à la maternelle. Et puis après, ça dépend de la maîtresse qui est en face de ses élèves, de l'école dans laquelle elle travaille, et puis du ministère dont dépendent ces écoles, et qu'est-ce que ce ministère donne comme moyen à ces écoles. Et je crois que c'est tous ces facteurs-là qui rentrent en jeu.
Bonjour Agnès Pommier de Santi, vous êtes professeure des écoles, doctorante en sciences de l'éducation, et vous participez à l'ouvrage « Préparer les petits à la maternelle ». On verra avec vous, tout au long de cette émission, l'importance de la relation émotionnelle entre l'enseignant et l'élève.
Oui, bien sûr. Je pense que la position de l'enseignante et enseignant est très importante pour accueillir l'enfant maternel, parce que, eh bien, il va recevoir un enfant justement qui a tout un vécu avant, donc il va être en charge peut-être de permettre la continuité affective avec la famille, hein, donc de ne pas créer de rupture justement dans le lien, parce que c'est ce qui va continuer à permettre à l'enfant à se développer de manière harmonieuse, puisqu'il arrive quand même assez jeune à l'école, surtout en première scolarisation à 3 ans. Et puis aussi, par l'attitude qu'il va adopter et par sa manière de pouvoir recevoir les émotions de l'enfant, il va pouvoir aussi être en capacité de rassurer, de sécuriser des enfants qui ne l'auraient pas été justement pendant ces 1000 jours et pendant sa toute petite enfance.
Boris Cyrulnik.
Elle est docteur.
Ouais. Elle est plus docteur. J'ai une ancienne information. Vous êtes docteur donc en sciences de l'éducation. Félicitations, chère Agnès Pommier de Santi. C'est une ancienne information. Anne Lucas.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, et puis ça dépend aussi de la manière dont les parents perçoivent l'école, ce qu'ils attendent de l'école, et ce qu'ils attendent de la maîtresse ou du maître en question aussi.
Allez, nous attendons toutes vos questions sur la maternelle au 01 45 24 7000, sur l'appli et le site de France Inter, ainsi que sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alexia Rivière, Claire Destacan et Julia Macarès m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Et je vous propose d'écouter un titre de 1985. Cette année-là, naissait la chanteuse Lily Allen et disparaissait le peintre Marc Chagall. Belle journée à l'écoute de France Inter.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter. compter sur tous les carambars d'antan et les coucous boers. Et les frères doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous, que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux, et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux, te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants.
Renaud interprétait Mistral gagnant.
Je vais à l'école des grands, des moyens grands.
Grand bien vous fasse.
Qu'est-ce que tu as dans ton cartel ?
J'ai ma tutu et ma grenouille.
Sur France Inter.
Comment aider les enfants à réussir leur année de maternelle ? 01 45 24 7000. Avec nous ce matin, pour répondre à cette question, un invité exceptionnel, Boris Cyrulnik. Ça veut dire quoi, Boris Cyrulnik, réussir ces années de maternelle ?
C'est un mot que personnellement, j'emploie pas. Moi, j'emploie le mot épanouir. S'épanouir, c'est-à-dire se sécuriser pour apprendre, pour acquérir le plaisir d'apprendre. Le plaisir de faire l'effort d'apprendre. Parce qu'on peut avoir un plaisir à faire un effort. Regardez les filles qui font du jogging tous les matins, elles sont défigurées de souffrance. Elles ont le plaisir de faire l'effort de courir. Donc je pense que moi, c'est un mot que j'emploie pas. C'est un mot qui est très souvent employé dans les cultures asiatiques et que les enfants payent extrêmement cher. Parce qu'on les fait tellement sprinter que quand j'étais travaillé au Japon ou en Chine, j'entendais tout le temps dire l'école est devenue une nouvelle forme de maltraitance. Alors que les pays d'Europe du Nord, au contraire, sécurisent les enfants avant de les stimuler. Et à ce moment-là, ils ont le plaisir de faire l'effort d'apprendre.
Comment un enfant de maternelle acquiert-il le plaisir d'apprendre ? Et a-t-on raison d'opposer la pédagogie du jeu et la pédagogie des pré-apprentissages ?
Alors, les enfants apprennent par le jeu. Et un enfant qui joue pas n'apprend pas. Un enfant qui est craintif se replie sur lui, il se protège, il se défend, il a peur du monde. Il apprend rien. Alors qu'un enfant qui a été sécurisé s'oriente vers l'autre, il a le plaisir de découvrir l'autre, de découvrir l'espace et de découvrir les problèmes qu'on lui pose. Il joue à résoudre les problèmes qu'on lui pose. Et ça l'amuse beaucoup de jouer avec le langage, de jouer avec l'espace, la géométrie, les mathématiques, les dessins, la musique qui stimule beaucoup le cerveau, qui est un excellent stimulant cérébral. Et à ce moment-là, l'enfant éprouve le plaisir. Et si on lui demande de faire un effort, eh bien, il va jouer à faire un effort et il pourra apprendre.
Agnès Pommier de Sentier, professeur des écoles et docteur en sciences de l'éducation.
Oui, bien, je suis tout à fait d'accord aussi, évidemment. L'enfant, il va apprendre à la maternelle et réussir à la maternelle par le plaisir, hein, par le plaisir de rencontrer des nouveaux camarades, le fait d'être bien, d'être à l'aise à l'école. Il faut voir que quand l'enfant de 3 ans, voire de moins de 3 ans arrive à l'école, il a tout un monde à découvrir. Ça peut être un petit peu violent, même parfois pour certains, dire il faut s'adapter. Et c'est parce que l'école maternelle va s'adapter justement à l'enfant, à ses besoins, à qu'est-ce qui va pouvoir l'amener dans ses apprentissages, que le petit enfant va pouvoir prendre plaisir et toujours avec, je dirais, d'un côté, l'organisation que va proposer l'enseignant, parce que le petit enfant a quand même des apprentissages à faire. Donc même si c'est par le jeu, en général, cet enseignement par le jeu, il est pensé en amont. Hein, ça n'est pas juste du jeu tout le temps libre. Et puis, il y a aussi cet accompagnement relationnel et l'importance que je crois les enseignants ont aujourd'hui à concevoir leur métier d'enseignement comme un métier de la relation. Ce pourquoi ils n'ont pas toujours été formés.
Anne Lucas, infirmière puéricultrice.
Et je pense aussi que ça dépend des expériences de l'enfant avant l'entrée à l'école maternelle, c'est-à-dire cette expérience d'être tranquille pour pouvoir explorer et pour pouvoir jouer. Il faut qu'il l'ait eu et qu'il l'ait expérimenté avant l'école. C'est-à-dire que c'est pas à l'école qu'on commence à apprendre ou qu'on commence à découvrir ou qu'on commence à s'adapter ou qu'on commence à se sécuriser. Ça se fait dès les premiers mois de vie, dès la première année de vie, et ça dépend de tout cette expérience-là. L'expérience aussi un peu de collectivité avant l'école maternelle, entre 2 et 3 ans, ça peut être aussi intéressant d'avoir cette expérience-là, pas de passer de la maison et du cocon familial à une classe avec une maîtresse. Il y a des tas de manières d'imaginer.
Boris Cyrulnik, par quel mécanisme le bien-être à l'école maternelle accompagne une amélioration des résultats scolaires?
Parce que quand l'enfant est sécurisé, son cerveau fonctionne au mieux de ses possibilités. Alors que s'il est insécurisé, le cerveau va être stressé, il va avoir des mécanismes de défense. La priorité, ça va être la défense. Si l'enfant a peur de la maîtresse, il va se mettre à distance. Comme on dit dans notre jargon, il va se périphériser, c'est-à-dire qu'il va éviter son regard, il va éviter de la rencontrer. Il se met, par la peur, en disposition spatiale de mal apprendre à parler. Alors que s'il est sécurisé, il a acquis sa petite confiance, comme la puéricultrice vient de le dire, avant d'entrer, il a déjà acquis sa petite confiance, il n'a pas peur, il a un petit stress, le stress fait partie de la vie, il s'oriente vers la maîtresse, vers l'inconnu, il va lui faire un babil, une offrande alimentaire. Il se met en disposition spatiale d'établir des relations et d'apprendre à parler. C'est-à-dire que déjà, les interactions, la divergence se fait très tôt, avant la parole.
Et puis, ça se joue aussi la capacité de l'enfant à aller vers l'adulte et demander de l'aide quand ça ne va pas. Et en première année de maternelle, il y a quand même beaucoup de découvertes et beaucoup d'inconnus. Et tout dépend de la capacité de l'enfant à aller vers.
Oui, c'est en ça que je vous disais qu'il y a, ces enfants donc, qui ont été sécurisés pendant la petite enfance dans leur milieu familial, même à la crèche, qui vont voir cette appétence naturelle pour l'étranger, pour les apprentissages, parce qu'ils perçoivent l'adulte et les autres comme des personnes disponibles, cohérentes, rassurantes. Et c'est plus après avec les autres là que l'attitude d'enseignante va être très importante, ceux qui arrivent de manière très insécurisée et qui justement vont fuir l'autre, vont fuir les apprentissages parce que ça leur fait peur, et où l'école doit vraiment penser à s'adapter autour de ses enfants pour qu'ils puissent entrer dans les apprentissages et que l'enseignant ait ce qu'on va dire une attitude sécure qui serait à définir pour justement leur permettre de mieux réussir ce parcours scolaire et cet épanouissement.
Bonjour Romain, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes
bonjour.
Enseignant et parent d'élèves, bienvenue dans l'émission.
Merci.
Quel est votre témoignage, Romain?
Alors, c'est un témoignage de parents et d'enseignants. Moi, mon fils, il est rentré à l'école en septembre, il a 3 ans et demi. L'école se passe très bien, il est très heureux d'y aller. Il dit, j'adore l'école, papa, mais les temps périscolaires sont compliqués pour lui. Il veut pas aller aux toilettes, donc il veut pas aller aux toilettes en groupe, donc il refuse de boire de l'eau, du coup, pour pas aller aux toilettes. Il veut pas aller à la cantine. Et la garderie, c'est compliqué. Alors, heureusement, il a une enseignante, une ATSEM qui s'occupe hyper bien de lui, qui met en place des choses pour qu'il puisse aller aux toilettes tout seul, dans un pot, ailleurs. Mais du coup, pour lui, c'est dur d'aller le matin à l'école parce qu'il a ces moments périscolaires qui le stressent, quoi.
Et Boris Cyrulnik.
Alors, effectivement, il y a des enfants qui sont trop bien organisés et qui ont peur de se laisser aller à l'intimité pas glorieuse des toilettes. Alors qu'il y a des enfants qui jouent, au contraire, à faire des compétitions. Les petits garçons font des compétitions à celui qui fera pipi le plus loin. Ben lui, il fera pas ce genre de jeu parce que probablement, il a déjà acquis une petite conscience de lui, peut-être un peu trop stricte, et que peut-être que le rôle des parents et des enseignants, ça serait peut-être de banaliser les toilettes et de lui présenter ça sous forme de quelque chose de pas si grave que ça.
Agnès Pommier, de Senti.
C'est effectivement un problème qu'on rencontre souvent à l'entrée en école maternelle de ces jeunes enfants qui vont refuser les toilettes parce que justement ça se passe en collectif et eux ont besoin de plus d'intimité pour pouvoir y aller. Et ce que disait le monsieur à l'antenne là, c'est vrai, c'est en général on s'adapte, hein, on essaye de pouvoir le laisser aller seul. C'est vraiment une question d'adaptation. Et au bout d'un certain temps, quand même, ce type d'enfants finissent aussi par aller toilettes. Si on respecte, hein, si on respecte leur rythme, leur désir et leur intimité, ils y arrivent après au cours de l'année.
Anne-Luca.
Et puis c'est aussi des enfants qui, pour le coup, ont l'air d'aller très bien, d'aller à l'école et qui manifestent aussi un peu cette angoisse d'une manière ou d'une autre, mais de cette manière-là. Et c'est parce que c'est difficile de dire avec les mots, donc on dit avec le corps.
Romain.
Oui. Merci pour cette réponse.
Bon, mais merci beaucoup en tout cas d'être. Oui, pardon,
coup,
allez-y.
Je voulais, en tant qu'enseignant, si je pouvais rajouter, moi je suis jeune enseignant, je sors de l'ESP.
Mm-hmm.
Allô?
Oui, on vous écoute.
Et en formation, le temps dédié à la psychologie de l'enfant, il est juste nul, on n'a rien.
Boris Cyrulnik,
c'est trop dommage.
Le cri du cœur de Romain.
Mais ça devrait être un hurlement du cœur, parce qu'il a totalement raison, c'est que là, il y a une défaillance des systèmes d'enseignants, et on est en train de travailler à améliorer un petit peu l'accueil, le CAP d'accueil de la petite enfance, et effectivement, il y a des méthodes très simples pour sécuriser les enfants, ne pas les brutaliser, aller doucement, leur présenter le jeu. Et effectivement, ces enfants un peu trop scrupuleux, peut-être parce qu'ils ont acquis déjà dans leur famille cette propreté excessive. Donc ces enfants un peu trop scrupuleux, on peut effectivement leur apprendre à se décontracter, même aux toilettes.
Merci beaucoup Romain d'être intervenu. Un courriel de Fatia qui nous dit « Que faire quand une enseignante inadaptée, malveillance, menace physique sur les enfants, mise sous pression continue, exerce en maternelle et sacrifie une classe de petits ?» Agnès Pommier de Santy, vous signez dans le livre préparé les enfants à la maternelle, un chapitre qui raconte la relation affective est au cœur de la réussite positive des enfants, en tout cas de l'épanouissement des enfants maternels. Qu'est-ce qu'on fait quand effectivement on est confronté, ça doit être assez rare, à un enseignant qui effectivement ne favorise pas un climat
sécurisant et épanouissant pour l'enfant. Et c'est très regrettable. Moi, je l'ai jamais rencontré. Mais quand il se passe quelque chose comme ça à l'école et que c'est les parents hein, qui le dénoncent, les parents, je pense, ont d'abord une nécessité à essayer de dialoguer avec l'enseignante. Si cela n'est pas possible, eh bien, il faut s'en référer au directeur de l'école, hein, et qui peut aussi faire quelque chose. Et puis ensuite, il faut s'en référer plus haut. Si vraiment on pense que son enfant est en danger dans une classe, évidemment, il faut faire en sorte qu'il soit protégé.
Quel est le mécanisme d'une relation d'attachement réussie et qui favorise les apprentissages? Pourriez-vous, par exemple, évoquer l'étude dite du Minnesota, qui montre bien les liens entre attachement et capacité scolaire?
Oui, alors cette étude du Minnesota, c'est Alan Stroof, hein, qui vient directement de la lignée des attachementistes. Il avait fait donc une grande expérience donc chez les enfants de maternelle. Et vous l'avez pu montrer justement que les enfants qui arrivaient avec un attachement sécure, hein, c'est déjà sécurisé, étaient presque des prototypes hein, d'enfants qui allaient réussir leur parcours scolaire justement parce qu'ils ont naturellement cette appétence pour les apprentissages, une bonne estime d'eux-mêmes, qu'ils considèrent l'enseignant comme étant une personne cohérente qui va être là pour eux. Et puis, à côté de ça, des enfants dits insécurité qui, au contraire, vont tout de suite montrer des oppositions hein, à ce qui va être proposé à l'école, des problèmes relationnels avec leurs camarades, avec les enseignants. Et c'est vrai qu'en m'appuyant sur cette étude, j'ai eu envie de chercher un peu, d'observer les enseignantes. Et ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est une étude qui est proposée, c'est vrai, hein, les enseignants sont plus à même parfois de s'adapter à un enfant sécure parce que c'est plus facile, mais quand on va sur les terrains difficiles, eh bien, on s'aperçoit que bien, les enseignants sont très investis et de par leur expérience, arrivent quand même et même s'intéressent, je dirais, plus particulièrement aux enfants qui sont en difficulté et vont chercher l'adaptation.
Comment instaurer un climat sécurisant en classe maternelle et dans les espaces collectifs? Quels sont les outils à disposition des enseignants?
Alors, les outils sont surtout dans l'organisation, hein, justement, comme vous dites, l'organisation de la classe, l'organisation des espaces de la classe, le fait de penser sa classe de manière moins traditionnelle, peut-être, avec des espaces plus ouverts, des espaces plus autonomes, ce qui va permettre, je dirais, à l'enseignant de se centrer plus à certains moments sur des enfants qui sont plus en réticence, plus en difficulté, pendant que d'autres sont dans la découverte. Et puis, il y a aussi les organisations d'école hein, qui font ça, les organisations d'équipes éducative, hein, qui se penche, et surtout depuis cette nouvelle rentrée où l'école est obligatoire, où il est nécessaire que l'école devienne un lieu de sécurisation.
Et pouvez-vous nous expliquer le rôle fondamental tout de même des ATSEM? Ce sont les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. C'est un métier d'éducation et de soins absolument fondamental. J'en ai eu l'expérience plus jeune quand j'étais étudiant et que je dirigeais des centres aérés maternels à la mairie de Toulouse. Et j'ai vu ce rôle absolument essentiel, fondamental de ces ATSEM, Boris Cyrulnik.
Alors effectivement, on a sous-estimé leur rôle. C'est généralement elles qui accueillent les enfants et c'est généralement les ATSEM qui ont une petite formation, qui n'ont pas assez de formation. Et c'est pourtant ces femmes qui accueillent les enfants et qui servent de trait d'union entre la famille et les professeurs des écoles. Parce que très souvent, les familles n'osent pas adresser la parole aux professeurs des écoles, alors qu'ils se confient facilement aux ATSEM. Et les ATSEM sont désireuses d'apprendre les théories de l'attachement parce qu'elles découvrent qu'elles ont une fonction importante et qu'elles sont ravies à l'idée d'apprendre, de faire un diplôme, par exemple, pour apprendre leur métier et apprendre mieux conscience.
Ben, ça tombe bien, nous avons une ATSEM au téléphone qui vient nous appeler au standard. Bonjour Emmanuel.
Bienvenue. Bonjour Monsieur Cyrulnik, ravi de vous avoir au téléphone.
Et on est ravi de vous avoir également, Emmanuel.
J'ai un grand soutien pour les ATSEM, je tenais à vous le dire.
Vous disiez, pardon, Emmanuel, vous disiez...
Je disais que Monsieur Cyrulnik est un de nos plus grands soutiens.
Ben, c'est formidable. Alors, témoignage sur votre rôle dans l'épanouissement des enfants à la maternelle.
Oui, alors moi je suis effectivement ATSEM. Je tenais, parce qu'on parle effectivement, et à juste titre sûrement, du rôle fondamental des enseignants, mais on oublie souvent dans les émissions qui ont justement le sujet de la petite enfance, on oublie, et l'école particulièrement, de parler des ATSEM qui ont un rôle, je pense, fondamental sur la sécurité affective, sur tout ce qui est la sécurité en règle générale. On les accompagne toute la journée, on est avec eux du matin jusqu'au soir. On est là pour les bobos, on est là pour les chagrins, on est là pour les rires aussi. On les accompagne au sein de la classe, on les accompagne sur les temps périscolaires. On est aussi une écoute auprès des parents. Effectivement, comme M. Cyrulnik le précisait, on n'a pas toujours les formations. Et donc on doit puiser dans nos ressources personnelles. Et donc on est voilà, on est vraiment un réel soutien, je pense, au sein de l'école, auprès des C'est très triste qu'on ne puisse pas parler de nous plus souvent, et je remercie encore M. Cyrulnik de le faire, parce que sans les ATSEM, en petite maternelle, auprès de la petite enfance, je ne sais pas si l'école tiendrait le choc.
Merci beaucoup Emmanuel pour votre joli témoignage, Anne-Luca.
Moi, je voudrais juste dire deux petites choses. Un, c'est vrai que, et c'est plus facile pour, je pense, l'enseignant quand elle-même a une équipe qui la sécurise et qui l'encourage pour tenir sa classe. Et deuxièmement, pour les ATSEM, c'est vrai que c'est aussi les enfants qui vont vers la personne qui le sécurise le plus. Et quand c'est les ATSEM, c'est la personne la plus importante.
Agnès Pommier de Santi.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. L'aide maternelle a une place primordiale sur la sécurisation de l'enfant. Partage pas forcément, c'est cette scission qu'on fait souvent entre le rôle de l'enseignant et de l'ATSEM en maternelle. Je pense que l'enseignant et l'ATSEM ont un rôle, je dirais, commun sur la sécurité affective.
L'enfant s'oriente vers la personne qui le sécurise, pas forcément sur la personne qui a le plus de diplômes. et que les ATSEM sont très sécurisantes.
On retrouve tout de suite l'ordonnance philosophique de Thibaut de Saint-Maurice. Il y a quoi dans cette ordonnance cette semaine, mon cher Thibaut ?
Eh bien, Ali, un traitement qui s'adresse donc à tous ceux qui ont encore des doutes sur la fonction et l'utilité de l'école maternelle. Alors, sans doute, il y en aura plus beaucoup après cette émission, mais vous savez, ça va de certains parents qui ont du mal à se séparer de leurs enfants quand c'est la première année, hein, quand on dépose en petite section, mais aussi jusqu'à un certain ancien ministre de l'Éducation nationale qui se demandait si on avait vraiment besoin de mettre des professeurs pour faire des siestes aux enfants. Échanger leurs couches, alors on va pas le citer. Au-delà des cris, des pleurs et des erreurs de jugement, il faut bien dire que l'école maternelle ne part pas forcément gagnante aussi rien qu'avec son nom. Parce que si cette école est bien maternelle, est-ce que c'est pas la mère de l'enfant qui est toujours la mieux placée pour materner ? Alors pourquoi est-ce qu'on laisserait pas les mères materner tranquillement et puis on commencerait l'école au CP quand il s'agit vraiment de donner une instruction élémentaire, la lecture, l'écriture, le calcul ? Pourquoi donc l'éducation de si jeunes enfants, à partir de 2 ans, parfois, aujourd'hui, devrait devenir une affaire publique?
Eh bien, peut-être, mon cher Thibault, parce que les parents ne peuvent pas tout faire.
Oui, exactement. Et c'est bien tout le principe actif du traitement de ce matin. Pour les parents, eh bien, l'éducation est en fait une mission impossible. Pourquoi? Parce que, comme l'explique la philosophe Hannah Arendt dans son texte intitulé justement « La crise de l'éducation », quand on est parent, on est confronté à 2 devoirs contradictoires. Le premier devoir, évidemment, c'est celui de protéger nos enfants du monde dans lequel ils grandissent et des dangers qui peuvent les menacer. Mais le deuxième devoir des parents, nous dit Arendt, c'est aussi de protéger le monde contre la jeunesse, la liberté, les ambitions nouvelles de nos enfants, bah, tout simplement pour ne pas que la génération qui arrive saccage tout le boulot des générations précédentes. Et c'est parce que ces 2 devoirs sont contradictoires qu'il n'y a pas de recette qui marche à tous les coups pour éduquer ses enfants. Et c'est peut-être aussi pour ça que les rappeurs toulousains Big Flo et Oli disent à propos de leur papa, il n'y a pas de bon père, il n'y a que des hommes qui font de leur mieux. Voilà, si l'éducation est une mission impossible pour les parents, elle ne peut pas rester une affaire privée et il faut qu'elle devienne une affaire publique. Le bénéfice de ce traitement, c'est que quand on comprend qu'il faut se mettre à plusieurs pour tenter de résoudre cette contradiction de l'éducation, donc les parents, l'école, mais aussi le sport, les colonies de vacances et toutes les activités que vous voulez, eh bien elles vont participer de ce grand travail d'éducation. On multiplie pour les enfants les situations d'éducation avec à chaque fois des adultes différents, dans des registres différents, et à chaque fois on met donc un peu de jeu dans cette contradiction de l'éducation. Alors évidemment, au cas par cas, à 2 ans ou même 3 ans, selon les enfants, ça peut faire un peu tôt, et sans doute, comme on l'a dit, il faut parfois s'adapter et commencer de façon progressive. Mais en fait, le principe est clair, c'est d'abord aux parents de réussir l'entrée à l'école maternelle. Alors comment? En comprenant avec Hannah Arendt que tout seul, on ne peut pas arriver à éduquer nos enfants, mais qu'avec l'école et tout le reste, en s'y mettant donc à plusieurs, on met toutes les chances de notre côté, pour faire, vous savez, de nos petites bestioles adorées, des femmes et des hommes libres.
Et Boris Cyrulnik acquiesce.
Il acquiesce, oui, parce que il pensait à un proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant, et ce proverbe africain est repris maintenant par les Européens, les Américains, parce qu'il est vrai. Et que si le piège, c'est être seul avec. Si une femme seule élève son enfant avec sa propre mère, elle n'est pas seule. Le monde de l'enfant est ouvert. Si une femme dite seule élève son enfant avec un autre homme ou avec celui qui a fait l'enfant, elle n'est pas seule. Si une femme élève son enfant avec une autre femme, elle n'est pas seule. S'il y a un groupe autour d'elle, l'enfant se débrouillera et pour tutoriser et développer tous ses comportements. Il pourra apprendre. Alors que s'il est prisonnier d'une figure d'attachement, il aura du mal à en sortir, et à l'adolescence, ça risque de faire des choses difficiles, parce qu'il ne pourra devenir autonome qu'en agressant celle qui lui aura tout donné.
L'ordonnance philosophique de Thibault de Saint-Maurice, à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Bouffas. Vous êtes le cofondateur du Paris Podcast Festival, ça commence
vendredi à midi, c'est entièrement gratuit, à la Gaîté Lyrique à Paris. On vous attend nombreux.
Merci, nous attendons toutes vos questions sur la maternelle au 01 45 24 7000, sur l'appli et le site de France Inter.
yourself, you are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling, I hear you calling, don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing, don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem.
Qu'est-ce que c'est bon, Michael Kiwanuka, qui interprétait You Ain't the Problem. Je vous rappelle le concert triple affiche avec Stéphane Escher, Patrick Watson et Michael Kiwanuka le mardi 22 octobre à 20h au studio 104 et ce sera évidemment diffusé en direct sur France Inter.
France Inter, grand bien vous fasse.
10h47, comment aider les enfants à s'épanouir en maternelle au 01 45 24 7000. Vous avez vu, j'ai changé le titre de l'émission en cours d'émission, Boris. Au début, c'était comment aider les enfants à réussir. Et là, vous voyez, je change un petit peu sous votre influence. Hein. Boris Cyrulnik, notre invité exceptionnel ce matin. Alors, au cœur de la réussite des enfants en maternelle, on retrouve, et de leur épanouissement, on retrouve bien sûr la maîtrise du langage.
Absolument, parce que le langage, c'est l'expression de ses émotions, c'est l'outil de la relation, et c'est ce qui permet de se socialiser au mieux. Un enfant qui parle bien pourra dire qu'il est malheureux, pourra dire qu'il est malade, pourra apprendre plus facilement. Alors qu'un enfant qui se tait se met à distance et se socialisera plus mal qu'un enfant qui parle.
Bonjour Alain Bentolila.
Bonjour Boris.
Vous êtes l'un de nos plus éminents linguistes. Pourquoi la maternelle est-elle, selon votre point de vue de linguiste, une étape absolument décisive dans la maîtrise de la langue ?
Bien, parce que la maternelle reçoit des enfants qui vivent une inégalité en matière de langage considérable. Et cette inégalité, on peut la mesurer. Certains enfants ont 8 fois moins de mots que les autres. Et par conséquent, ces enfants-là auront à la fois beaucoup de mal à dire le monde, c'est-à-dire ce que disait Boris, c'est-à-dire dire ce qu'ils ressentent, mais aussi dire ce qu'ils pensent, hein, penser et ressentir. Et puis, ils auront infiniment de mal à lire. Un enfant qui n'a pas le vocabulaire suffisamment de vocabulaire, va apprendre à lire comme un perroquet, c'est-à-dire qu'il saura faire des sons, mais il ne mettra pas de sens derrière les sons. Donc c'est essentiel. Faiblesse du langage, difficulté d'apprendre à lire et à écrire, et le reste suit. Il va passer d'étape en étape, toujours avec ce retard, il va arriver au collège et le collège l'achève. Parce que le collège achève les enfants fragiles. Il ira en SECPA, parce qu'il faut qu'il aille jusqu'à 16 ans. Mais on le tirera jusqu'à 16 ans avec des difficultés considérables.
Alain Bentolila...
Voilà pourquoi la maternelle est au front des inégalités. Voilà pourquoi il faut qu'elle lutte infiniment avec obstination pour que tous les enfants aient le langage suffisamment riche, suffisamment explicite dans leur tête pour avancer vers le reste de leur scolarité.
Alain Bentolila, dans les grandes lignes, quels sont les 5 grands engagements pour la maîtrise de la langue à la maternelle ? Vous les rappelez hein, dans l'ouvrage sous la direction de Boris Cyrulnik, Préparer les petits à la maternelle.
Oui, excellent ouvrage.
Quels sont les 5 grands engagements pour la maîtrise de la langue à la maternelle ?
Si vous voulez, c'est d'abord prendre conscience que le langage se segmente. Il se segmente d'abord en mots. Il ne faut pas croire que l'enfant a une intuition géniale comme ça, que le langage oral est formé de mots. Un enfant qui entend le chapeau de papa, pour lui, le chapeau de papa, c'est une seule unité. D'ailleurs, c'est une seule image. Ça, c'est le, hein, la deuxième chose, c'est qu'il faut lui apprendre, lui faire comprendre ce que c'est que communiquer, qu'est-ce que c'est que le langage oral. Et là, je reviens sur ce que disait Boris tout à l'heure, c'est la conscience du franchissement. Parler, c'est franchir. Parler, c'est dire quelque chose à quelqu'un, alors que ce quelqu'un ne le sait pas encore. Si un enfant croit que tout ce qu'il va dire, l'autre, sa mère, son père, etc., le sait déjà, il ne fera aucun effort de précision, de fluidité, etc. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est la conscience de la communication orale. La troisième, c'est qu'il faut, petit à petit, qu'il sache que les mots jouent un rôle dans une phrase. Qu'il y a des mots qui disent qui, qu'il y a des mots qui disent quoi, etc. Il ne s'agit pas de faire la grammaire, surtout pas, on ne nomme rien. Mais on se rend compte que on peut dire avec la langue que l'agneau dévora le loup. Mmh. Voilà, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. La quatrième chose, c'est le fait qu'il faut apprendre à comprendre des textes avant même de savoir lire. La maternelle est le lieu où la maîtresse lit à ses élèves et où, au bout de cette lecture, elle va leur dire « Quel film t'es-tu fait dans ta tête ?» Chacun va faire état de son film singulier. Elle les recueille, elle les garde. Et pour certains de ces enfants, c'est la première fois qu'on va les écouter, qu'on va les prendre en compte dans leur singularité. Certains films sont moins précis que les autres, peu importe, on les garde. Et puis dans un deuxième temps, on va faire du texte un arbitre, et ce texte va dire ce qui est de l'ordre de l'interprétation, tout à fait souhaitable, et ce qui est de l'ordre de la trahison, qui évidemment, on ne trahit pas un texte, et on va montrer texte en main, que ça n'est pas comme ça que les choses se font.
Merci Alain Bentolila, merci beaucoup en tout cas d'être intervenu ce matin. Le regard d'Agnès Pommier de Santi, professeur des écoles.
Alors je dirais que le langage de l'enfant, il se construit bien avant l'entrée à l'école maternelle. Et ce qui est assez surprenant, c'est que ben, dans certains milieux, on voit de plus en plus d'enfants qui arrivent sans le langage. Et donc qui vont avoir beaucoup de difficultés à s'exprimer, donc beaucoup plus de difficultés à s'adapter au milieu scolaire, parce que la communication, elle est nécessaire. Donc du coup, ils vont être un peu à l'écart. Et du coup, ils vont parler beaucoup plus avec le corps, hein, en faisant beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements. Ce qui va entraîner certains conflits. Et le rôle de l'enseignant est là encore primordial, et celui de l'aide maternelle aussi, dans les interactions individuelles qu'il va provoquer chez ce jeune enfant pour continuer le développement du langage qui n'a pas été fait avant.
Anne Lucas, infirmière puéricultrice.
Oui, le langage, ça se fabrique dès avant la naissance et dès tout petit. C'est le premier dialogue entre un parent et son enfant. Et c'est un des premiers apprentissages d'un parent à son enfant, de nommer les émotions, de nommer les choses, de nommer le sens, de donner du sens à son enfant, d'avoir la capacité de parler du passé, du présent, du futur, parce qu'il y a aussi beaucoup de difficultés parfois pour les enfants à se situer dans le temps, à dire si on est hier, aujourd'hui, demain. Il y a toute cette difficulté-là, et c'est accompagner le parent dans la manière de parler à son enfant, donner du plaisir aux parents à parler, c'est très important.
Boris Cyrulnik.
Et puis le langage a une fonction affective, bien plus qu'informative. Parler à un bébé de 3-4 mois, pour lui c'est un événement extraordinaire. Quand maman lui adresse la parole, il est très heureux et il répond. Il fait un babil, il sourit, et il y a un dialogue préverbal qui se passe entre la mère et l'enfant. Et petit à petit, ce jeu, ce plaisir, d'interaction par les mots, par la sonorité, fait que l'enfant se prépare à la convention du signe, c'est-à-dire apprendre à parler et plus tard apprendre à écrire.
Bonjour Yoann Sidbon.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur d'une école maternelle à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Est-ce que ce que défend le gouvernement, les ambitions pour l'école maternelle, sont à la hauteur des moyens ?
Oui, alors je voudrais pas jouer le râleur de service dans votre émission qui est très positive jusque-là. Mais effectivement, chez les enseignants de maternelle, les programmes de 2015 ont été accueillis très positivement. Et malgré cela, le compte est encore loin quand on parle des effectifs, par exemple. Hein. C'est vrai qu'une classe maternelle avec 30 élèves, par exemple, en petite section, rend difficile des mesures aussi positives que le suivi plutôt que l'évaluation, l'attachement et la bienveillance dont on parle depuis le début.
Je pense par exemple au dédoublement des classes de maternelle, c'est prévu en 2020, c'est ça, normalement ?
C'est vrai, pour la grande section. Mais bon, là encore, c'est une mesure très positive et qui est accueillie positivement dans les écoles maternelles. Maintenant, on parle depuis le début de choses qui concernent l'attachement, la bienveillance. Ça, c'est beaucoup en petite section que ça se passe. Mmh. Vous évoquiez les ATSEM tout à l'heure. Si on arrive à faire des classes de grande section à 13 ou 14, eh bien, tant mieux. On va favoriser les apprentissages. Si on laisse des classes de petite section qui à côté montent à 27, 28, 30 élèves, bon, on n'aura fait que la moitié du chemin.
Quel est le rôle, Johan Sidbon, d'un directeur d'école maternelle? Je vous pose la question dans le contexte de cette, évidemment, du suicide de votre consœur, directrice d'une école maternelle à Pantin, en région parisienne, sur son lieu de travail le 23 septembre dernier. Une directrice décrite comme hyper investie et qui a décrit dans une lettre de 3 pages son épuisement, sa solitude de directrice, l'accumulation des tâches chronophages, les réformes incessantes et contradictoires.
Oui. Bah, écoutez, là aussi, je veux pas jouer le râleur. En plus, notre ministre était sur votre antenne ce matin. Il a envoyé, semble-t-il, des signes positifs de ce point de vue-là aussi. Oui, le rôle d'un directeur, il est très attaché à ses familles. Hein, on parle beaucoup de l'enfant. Le rôle de la famille est important et l'accueil des familles de ses élèves et le fait de les faire se sentir bien dans une école. De les faire se sentir appartenir à une école, être un parmi ce groupe-là, du point de vue de la socialisation, c'est-à-dire faire société ensemble, de ce point de vue-là, le rôle du directeur, il est primordial.
Un mot de conclusion, Boris Cyrulnik, après les propos de Johan Sidbon, directeur d'école.
Alors effectivement, les pays d'Europe du Nord ont des classes de 15 à 20 enfants maximum, et ils sont médaille d'or aux évaluations PISA, c'est-à-dire aux évaluations scolaires à l'âge de 15 ans. Il y a aussi la lenteur. Les pays d'Europe du Nord privilégient la lenteur. Les notations arrivent à 10, 11 ans. Les évaluations arrivent très tard. Parce que chaque enfant se développe à une vitesse étonnamment différente. Donc, un enfant peut très bien être en retard à 3, 4 ans et en avance à 4 ans et demi.
Boris Cyrulnik, je vous propose de revenir, pour parler notamment du sommeil, des écrans, dans le développement des enfants de maternelle. Merci beaucoup, Boris Cyrulnik. Préparer les enfants à la maternelle vient de paraître chez Odile Jacob. Merci, Johan Sidbon. Merci, Anne-Lucas et Agnès Pommier de Senti. Demain, avec Futura Science et Le Point, mieux manger pour mieux vieillir. Nous verrons quelles sont les dernières connaissances scientifiques en la matière, quelles sont les bonnes recettes alimentaires pour bien vieillir sans renier la notion de plaisir. Demain, vous pourrez intervenir au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Louis Audebert et Maxime Ingrand.